La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, pour commencer cette émission en nous donnant du courage, force et courage à la lutte pour les droits des femmes, je vais commencer par une bonne nouvelle qui a été obtenue grâce à la lutte d'associations féministes abolitionnistes, donc Oser le féminisme et les effronter, et le mouvement d'Uni. La bonne nouvelle, c'est que Michel Piron est en garde à vue, derrière Jackie et Michel. Un système organisé de proxénétisme et de viol. Nous nous réjouissons d'apprendre que Michel Piron, propriétaire de Jackie et Michel et 4 complices, sont actuellement en garde à vue pour des faits supposés de complicité de proxénétisme et de viol. L'impunité des pornocriminels se fissure et la justice écoute enfin les victimes. C'est toute l'industrie pornographique qui est dorénavant face à la justice. Acteurs, rabatteurs, producteurs, réalisateurs, diffuseurs constituent un véritable système proxénète et criminel. Nous exigeons que cesse cette zone de non-droit qu'est la pornographie. En 2020, donc Oser le féminisme, les effronter, le mouvement d'Uni ont fait des signalements contre Jackie et Michel pour proxénétisme, viol, traite des êtres humains, actes de torture et de barbarie, suite à l'enquête du journaliste Robin D'Angelo, qu'il relate dans Judy, Lola, Sophia et moi, et dans la vidéo-enquête sur Combini de février 2020. Dans cette vidéo, l'un des fondateurs de Ares, la société propriétaire de Jackie et Michel, déclarait à propos de leur méthode de rabattage, je cite, « En France, c'est interdit, c'est du proxénétisme. De toute façon, si tu trouves une fille, on met un truc qui n'a rien à voir pour ne pas s'attirer les foudres. » La défense de Piron, qui consiste à dire qu'il n'était pas au courant des violences commises sur les tournages, est intenable, alors que ce sont les diffuseurs qui commandent ces contenus violents et dégradants aux producteurs. Le porno amateur est un vaste mensonge. Seul existe un système de proxénétisme bel et bien organisé. Les pénétrations sexuelles obtenues sous contrainte, les violences sexuelles et les actes de torture infligés, les manipulations commises contre des femmes rabattues et piégées, les diffusions incontrôlées des vidéos sont la norme de cette industrie criminelle. C'est aussi ce que démontre l'enquête du Monde à propos de l'autre affaire impliquant 12 producteurs et acteurs, dont Mathieu Loret, l'un des principaux producteurs de Jackie et Michel, et de Dorcel, mis en examen et en détention provisoire pour proxénétisme, viol aggravé et traite des êtres humains. Il est grand temps que cesse cette zone de non-droit. Nous réclamons la justice, nous réclamons également que les acteurs institutionnels se réveillent et prennent la mesure du problème. Nous dénonçons l'impuissance de l'ARCOM qui échoue à faire appliquer la loi de protection des mineurs. Les pornocrates s'enrichissent par la diffusion massive de violences sexuelles et sexistes auprès d'enfants, ce qui constitue un viol psychique, selon les psychologues auditionnés au Sénat récemment. Parenthèse, je salue notamment Laurence Rossignol qui lutte vraiment et qui est au Sénat et qui justement participait à ces auditions. Nous dénonçons l'inaction de Pharos, auprès duquel Oser le féminisme a signalé des centaines de contenus illicites, pédocriminalité et viol, apologie de crimes sexuels, apologie de la haine raciale, lesbophobie. Aucun contenu n'a été retiré pour l'instant. La révolution MeToo n'aura pas lieu si nous ne rendons pas justice aux victimes du pire système de violence masculine. La révolution MeToo n'aura pas lieu tant que la pornographie, outil de propagande patriarcale, continuera à propager le pire de la culture du viol. Enfin, s'il devait y avoir une mise en examen pour proxénétisme et viol à l'issue de cette garde à vue de Piron, nous exigeons la fermeture immédiate des contenus de la société Ares, dont le site de Jackie et Michel et des chaînes TV de Jackie et Michel, hébergées par le groupe Canal+. Voilà, donc effectivement, dans ce communiqué, on parle de l'industrie pornocriminelle qui cible les enfants et rien n'est fait pour les protéger. Donc je vais revenir là-dessus. Donc il faut savoir que les contenus pornographiques constituent 20% du trafic mondial Internet. 20 millions de Français par an regardent du porno, 200 millions d'euros en 2018. Selon une étude américaine, 88% des vidéos contiennent des scènes de violence sexuelle. Gorge profonde, agressive, étranglement, sodomie violente, éjaculation faciale, coups, tirage de cheveux, crachat, urine, buc à queue. Viol collectif, si vous ne savez pas ce que veut dire buc à queue. Faute d'éducation à la vie sexuelle et affective, ces vidéos pornographiques éduquent les adolescents et adolescentes à l'érotisation et à la banalisation de la violence sexiste, éduquent à la haine des femmes, éduquent à la haine raciale. Selon l'étude de mémoire traumatique et victimologie, qui est une association donc, présidée par Muriel Salmona, de février 2021, à cause de la pornographie, les jeunes sont la tranche d'âge qui adhère le plus à la culture du viol. 34% des hommes de 18 à 24 ans pensent que quand une femme dit non, elle pense oui. Les jeunes dont le cerveau est en construction peuvent développer une addiction, recherchant des contenus de plus en plus violents et deviennent incapables d'entrer dans des relations affectives ou sexuelles basées sur la bienveillance et le désir partagé. Nous assistons à une hausse de sentiments dépressifs, une détérioration de la santé mentale, des problèmes d'érection pour les garçons, une incapacité pour les filles à nommer et à refuser des pratiques sexuelles violentes. À l'heure de MeToo, la pornographie est responsable d'une immense crise de santé publique. L'industrie pornographique ne s'y trompe pas en inondant de contenu porno par le biais de pop-up, les plateformes de streaming et de jeux en ligne, très souvent utilisées par les enfants et les adolescents. Par ailleurs, les pornocrates, qui disposent de moyens illimités, font aussi un lobbying intense avec les meilleurs cabinets d'avocats pour se soustraire à l'obligation de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Si en effet le code pénal interdit d'exposer les mineurs à de la pornographie, les sites n'ont jamais appliqué cette loi, se contentant de demander en un clic « Avez-vous bien 18 ans ?» à l'entrée du site. L'article 23 de la loi du 30 juillet 2020 oblige dorénavant les sites à contrôler effectivement l'âge des internautes et donne mandat à l'ARCOM de vérifier la mise en place de dispositifs efficients. Il a fallu attendre octobre 2021 pour obtenir le décret d'application, puis encore décembre 2021 pour obtenir une première mise en demeure de l'ARCOM sur 6 sites signalés par les associations de protection de l'enfance dès 2020. De son côté, en décembre 2020, Osez le Féminisme avait fait une seconde saisine auprès de l'ARCOM sur 118 sites qui ne respectent pas la loi. On attend toujours la réponse de l'ARCOM. Parmi les 6 premiers sites mis en demeure, on revient au site de Jackie et Michel qui prétend avoir mis en place un dispositif de contrôle mais qui se révèle inefficace. C'est un dispositif qui est non conforme et qui malheureusement a suffi à l'ARCOM pour qu'il ne soit pas inquiété pour l'instant. Les autres sites Pornhub, Tukif, Xhamster, Xvideo, NXXX ont tout abonnement ignoré les mises en demeure de l'ARCOM qui les a renvoyés devant la justice. Et malheureusement, le 24 mai 2022, la justice a refusé le blocage des sites incriminés, arguant d'une erreur de procédure. Jouer des délais pour rester dans l'illégalité est une stratégie parfaitement assumée de l'industrie pornocriminelle. En somme, la diffusion des contenus sexuels et misogynes est hors de contrôle, au plus grand bonheur des pornocrates. L'échec de l'ARCOM à obtenir de la justice le blocage des sites est une honte. Voilà, donc on attend toujours des actions de l'État, la justice qui tergiverse, qui attend, qui abdique et qui cible les enfants avec toutes les conséquences dont je viens de vous parler. Alors du coup, je vais enchaîner sur la prostitution, la lutte contre la prostitution. Relayer une publication d'une femme survivante que je salue, une héroïne de la lutte contre la porno-prostitution. Cette femme fait partie d'un collectif Abolition Porno-Prostitution. qui lutte contre toutes les formes de marchandisation des êtres humains et surtout êtres humaines, puisque la porno-prostitution concerne plus de 90% de femmes. Voilà, c'est le système le plus sexiste, le plus raciste, colonialiste et capitaliste qui soit et qui encourage cette marchandisation, le système porno-prostituteur, avec son lobby dont on vient de vous parler. On fait partie, la pornographie, c'est le même, le lobby de l'industrie du sexe ou lobby proxénète. Avec une idéologie qui légitime la domination d'un sexe par un autre et la pédocriminalité à travers la pornification des femmes et des enfants. Il faut savoir que l'inceste est la filière principale de recrutement des femmes qui, soi-disant, consentiraient à la prostitution, alors qu'elles ne consentent pas du tout, hein, puisque effectivement, donc voilà, 90% des femmes qui, soi-disant, consentiraient, en fait, ont vécu des violences sexuelles comme dans l'enfance. Il s'agit donc de pédocriminalité. Et puis, il y a tellement peu de femmes qui, soi-disant, consentiraient que ce système fonctionne sur la traite et existe par la traite des êtres humains, êtres humaines. Voilà, donc vous pouvez trouver le site du collectif Abolition Porno-Prostitution sur tous les réseaux sociaux qui lutte évidemment pour la pénalisation des clients prostitueurs afin d'agir sur la demande. Et donc l'offre, et qui permet de faciliter les plaintes des personnes prostituées contre les violences qu'elles subissent de la part des clients, donc voilà, qui demande l'application, la phase 2 de la loi abolition 2016, dont on n'entend jamais parler parce qu'il n'y a pas de volonté politique de l'expliquer et de faire, voilà, de faire ce qu'il faudrait faire, hein, d'en parler partout aux jeunes et dans les médias. Voilà, donc il n'y a pas de sensibilisation générale de la population à ces violences, à la réalité de la prostitution, à ses causes et à ses conséquences. Il n'y a pas de formation qu'on demande approfondie des agents des services sociaux, de santé, judiciaires, policiers, etc. Voilà, donc ce CAPP lutte pour tout ça. Donc je vais donc vous lire une des dernières publications donc, du CAPP qui est écrite par Daria. Et le titre s'appelle « 2 juin, brutale ou lente, la prostitution est une mort ». Alors ça commence en rappelant que le 2 juin 2022, c'est en anglais « International Day of Remembrance for Women Who Died in Prostitution ». Donc voilà, la journée internationale des femmes qui meurent dans la prostitution. « Brutale ou lente, la prostitution est une mort. Certaines ne reviennent jamais ». Cette nuit, Sélénée a peint cette image pendant que nous préparions cette journée internationale de mémoire de celle qui ne reviendrait pas. Donc l'image, vous pouvez la trouver sur la publication du CAPP, donc a été peinte par une survivante donc pour parler de cette journée internationale. Je la regardais peindre ce visage qui lui ressemble, qui nous ressemble à toutes, et les prénoms des mortes tournaient en boucle dans ma tête. Cheryl, Zineb, Aneta, Amanda, Anan, Valérie, Alma, Kelly, Louise, Jessica, Hope. Je cherchais les mots pour vous dire ce que cette journée représente pour moi. Mais je n'y arrivais pas, je me sentais juste épuisée. Ce matin, je me suis réveillée avec un appel glaçant, celui d'une femme terrifiée qui voulait savoir si j'avais des nouvelles de sa jeune sœur disparue depuis plusieurs jours. Elle m'a raconté qu'elle avait passé la nuit avec la police, qui avait fouillé les tentes de la colline du Crac pour tenter de la retrouver. Je n'avais rien de rassurant à lui dire, sinon que j'allais écrire aux personnes susceptibles de lui avoir parlé et que je reviendrais vers elle si j'obtenais des informations. Un appel de routine. Pendant que je parlais à cette femme, la peinture de Sélénée étalée sur le plancher accrochait mon regard. J'ai terminé l'appel et marqué un temps d'arrêt, en priant je ne sais quoi, pour que le prénom de la jeune fille ne rejoigne jamais cette liste insupportable. En sachant que c'était peut-être déjà le cas. Et puis je suis partie travailler, toujours à la recherche de mes mots, tout au long du trajet. Cela fait 10 ans, jour pour jour, que je porte en moi une blessure qui ne se referme pas. Je fais partie de celles qui sont restées pour vous raconter ce que nous avons vu là-bas et ce que ça signifie de devoir vivre avec ça. L'année dernière, je vous ai parlé de Nina, de sa beauté, de sa puissance, de son humour, de son génie. Elle m'a sauvée 2 fois, La première, en me transmettant assez de lumière pour tenir au plus profond de l'obscurité. La seconde, quand ils me l'ont prise, en me donnant l'impulsion de m'enfuir. Depuis 10 ans, je vis sans elle et j'essaie de guérir. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce deuil si particulier. Pleurer une personne aimée est toujours une épreuve. Mais j'aimerais que vous compreniez, que vous essayiez d'imaginer ce que l'on ressent quand l'horreur s'ajoute à l'horreur. Je crains qu'au milieu de ce cauchemar, elle représentait la dernière part d'humanité que j'étais parvenue à sauvegarder au fond de moi. Elle était la dernière source de beauté, la raison pour laquelle je devais m'accrocher, le remède pour oublier, durant quelques instants, tout ce qui s'était passé avant et tout ce qui allait arriver. Et puis, on la retrouvait morte. J'ai mis des années à assembler, pièce par pièce, un semblant d'explication à cette incompréhensible réalité. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule, alors même que le cauchemar redoublait d'intensité. Cette mort m'avait été annoncée quelques jours auparavant. Comment croire une chose pareille? Je n'ai pas réussi et en même temps, je savais qu'il ne bluffait pas. Ils l'ont tué d'abord parce qu'ils le pouvaient, parce que c'était facile de faire disparaître une jeune femme isolée et toxicomane. Ils l'ont tué ensuite parce qu'elle n'était pas sage, ni docile, ni silencieuse. Elle voulait me protéger. Elle n'avait pas peur d'eux et représentait une menace à leurs yeux. En même temps, c'était leur façon de m'adresser un message, de me montrer l'étendue de leur pouvoir et de leur indifférence. Combien de fois nous avait-il répété que nous n'étions rien de plus que des marchandises? Une marchandise abîmée, on s'en débarrasse, c'est tout. Sa mort leur a permis enfin de me briser pour de bon et de s'assurer mon silence. Pendant très longtemps, sans vraiment en avoir conscience, j'ai vécu avec le sentiment qu'elle était toujours piégée, là-bas, hors d'atteinte. J'ai vécu avec le poids monstrueux de cette sensation qu'ils étaient en train de la torturer à chaque seconde et que je ne pouvais pas aller la chercher. J'ai vécu avec la culpabilité d'avoir réussi à m'enfuir puis à reconstruire une vie sans elle. J'ai lutté contre ma culpabilité de survivante en m'engageant, corps et âme, auprès de celle pour qui il existe encore un espoir. La seule chose qui comptait, c'était d'arracher une victime aux griffes de ses bourreaux, à chaque fois que possible. J'ai pris des risques en partageant mon histoire pour éviter peut-être à quelques-unes de tomber dans le piège ou leur permettre d'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, j'ai eu envie de me reposer quelque part, de laisser enfin l'horreur derrière moi. Mais j'ai continué à me confronter à cette réalité que personne ne veut voir, à noter les prénoms des mortes, les uns derrière les autres, comme des perles sur un fil. Et j'ai porté ce collier jour après jour. Aujourd'hui, je ne me déteste plus d'être restée en vie. Je crois que je mérite les belles choses qui font désormais partie de mon quotidien. Je me suis habituée aux flashbacks qui parasitent mes journées et aux soudaines montées de terreur. J'ai appris à les dompter. Cependant, il reste une chose que je ne pourrai jamais accepter, qui me déchire de l'intérieur et m'interdit de tourner à la page. C'est surtout sur cette dimension que j'aimerais insister maintenant, parce qu'elle vous concerne aussi. Parce qu'elle est politique. Depuis quelques années, les défenseurs des proxénètes et des clients, directement responsables des vies brisées dont je vous parle, ont envahi les médias, la culture, le social, les milieux politiques et militants, y compris ceux qui se prétendent féministes. Je me demande encore comment autant de personnes peuvent avaler, acclamer et recracher les discours simplistes autour de ce qu'ils appellent le travail du sexe. J'ignore comment ces personnes se débrouillent avec leur conscience lorsqu'elles choisissent d'occulter la violence extrême et flagrante que vivent l'immense majorité des femmes prostituées pour n'écouter qu'une minorité privilégiée soi-disant satisfaite de monnayer librement leur sexualité. Et encore, pour celles qui l'ont vécu dans leur chair, les mensonges contenus dans les discours de celles-ci crèvent les yeux. Naïveté coupable, paresse ou malhonnêteté intellectuelle, absence totale d'empathie, lâcheté, quelles qu'en soient les raisons, c'est d'une indécence crasse. À chaque fois qu'un article qualifie ce que nous avons vécu de travail, je le vis comme du négationnisme. À chaque fois qu'une victime de prostitution est appelée « travailleuse du sexe », je le vis comme un crachat au visage de toutes nos mortes. Et chaque prise de position en faveur de l'idéologie des proxénètes est une trahison impardonnable envers les survivantes. Non seulement ce contexte qui normalise la violence prostitutionnelle jusque dans les lieux féministes me rend terriblement inquiète pour la nouvelle génération, qui est ainsi on ne peut mieux préparée à servir de chair fraîche à tous les clients violeurs et de marchandises aux proxénètes, mais faire mon deuil dans ces circonstances est une tâche impossible. J'ai revu récemment une vidéo dans laquelle la maman de Marie Trintignant exprimait sa colère vis-à-vis du meurtrier de sa fille, fraîchement libérée après 4 ans de prison et reprenant tranquillement sa carrière. Elle disait ce que cela lui faisait de voir cet homme sur scène, acclamé par des foules. Elle disait qu'il lui était intolérable que cet homme puisse être applaudi par qui que ce soit. Cette interview m'a rappelé la manifestation du 25 novembre organisée par la Maison des Femmes de Montreuil. Ce soir-là, j'ai assisté au discours d'un groupe de femmes qui hurlaient qu'en ce jour dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes, la priorité devait être la reconnaissance du travail du sexe. Sur le parvis, la foule entière a acclamé ces paroles. Ce soir-là, j'étais présente au sein d'une foule qui acclamait la revendication première des proxénètes. Et sur la scène, j'ai vu le meurtrier de Nina savourer l'ovation. Nous avons créé cette journée en mémoire des femmes qui ont perdu leur vie, piégées par une industrie criminelle qui se nourrit du trafic d'êtres humains. J'aimerais que vous pensiez à elles et à toutes celles qui les pleurent. Nina, Cheryl, Zineb, Amanda, Anan, Valérie, Alma, Kelly, Louise, Jessica, Hope. Hope. Voilà, ce texte m'a beaucoup, beaucoup, je pense, vous aussi, ému. Et donc, j'ai voulu faire ce silence pour rendre hommage à ces mortes. Vous dire que le mouvement du Nid aussi a fait un dossier, par exemple, par rapport au féminicide prostitutionnel dont on ne parle jamais. Et je vous encourage à aller voir ce dossier. Donc les féminicides, voilà, les prostituées qui sont tuées par les clients. Et donc, oui, dont on ne parle jamais. Et le risque de féminicide est au moins 10 fois plus élevé pour les femmes en situation de prostitution. Je vais aussi vous dire ce petit mot de Brigitte Bianco qui va dans le même sens de la publication de Daria. Donc Brigitte Bianco, c'est une femme survivante de la pornographie et de la prostitution. Et c'est une amie et j'ai aussi relayé une interview où vous pouvez aussi que vous pouvez retrouver dans un podcast, dans les podcasts. Donc voilà ce qu'elle a écrit tout récemment. Bonsoir, non la prostitution et la pornographie, ce n'est pas un travail. Les prostituées et les actrices porno ne sont pas des travailleuses du sexe. Il s'agit d'un viol tarifé, d'une violence imposée aux couches les plus fragiles de la société. Ces femmes sont recrutées parmi les précaires, les handicapés psychiques, les mineurs, les sans-papiers, etc. L'industrie porno-prostitution tue. Cette semaine, une prostituée a été égorgée par un client. Celles qui s'en sortent gardent de lourdes séquelles physiques et psychiques. Je sais de quoi je parle, je suis une survivante. N'écoutez ni le Stras, ni les médias qui voudraient vous faire croire que c'est un métier. L'abolition est la seule solution, comme le prônent mes amis du CAPP. Lisez mon autobiographie « Cendrillon du trottoir » pour vous en convaincre. Je témoigne pour toutes les victimes. C'est un combat que je mène pour une société plus humaine et sorore pour toutes mes sœurs. Mon témoignage est disponible sur toutes les plateformes et dans les librairies. Donc je remettrai effectivement en référence le livre de Brigitte Bianco, « Cendrillon du trottoir ». Alors, je vais faire une pause musicale. Faut que je retrouve avec La Chica, une très grande artiste franco-vénézuélienne. Et j'ai eu la chance d'assister à un concert à Marseille, à la Maison. Donc, comme j'ai beaucoup, beaucoup aimé, je vais vous faire profiter d'un enregistrement que j'ai fait lors du concert. J'aurais pas pensé qu'il soit aussi bon, mais je le trouve bon, donc je vais vous faire écouter.
Solo zarpazo que arruinó el alma.
c'était donc La Chica avec sa chanson Sola. Alors je reprends, donc pour vous parler d'une autre association abolitionniste qui s'appelle CAP International et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Last Girl First, la prostitution à l'intersection des oppressions sexistes, racistes et de classe. Donc Emma Sibi est coordinatrice du plaidoyer à CAP International, donc qui lutte contre la prostitution et la traite des femmes. Et elle est autrice de cette étude « Last Girl First ». Donc c'est passionnant, voilà, c'est un rapport qui est en fait le fruit de 2 ans de recherche qui couvre 49 pays, qui rassemble les témoignages de plus de 40 survivantes de la prostitution et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, d'expertes du terrain qui travaillent auprès de ces personnes en situation de prostitution aux quatre coins du monde et qui comptent plus de 500 références. Donc cette étude explore la surreprésentation des femmes et des filles issues des communautés les plus marginalisées dans la prostitution. Partout dans le monde, les femmes autochtones, Premières Nations, Maoris, Adivasi, migrantes, pauvres, issues de minorités ethniques, raciales ou religieuses, des castes les plus basses, comme les Dalits, Badi en Inde, sont impactées de manière disproportionnée par le système prostitutionnel. La recherche Last Girl First développe et va au-delà d'une simple analyse de la prostitution en termes de risques sanitaires et offre une analyse complète des oppressions intersectionnelles qui façonnent la prostitution. En retraçant les racines historiques, politiques, sociales et les dynamiques de ce système, cette étude met en lumière les réalités de la prostitution et la manière insidieuse dont différents schémas de domination tels le patriarcat, le racisme, le colonialisme, l'impérialisme, la domination de classe, le capitalisme, la guerre et la militarisation façonnent le système prostitutionnel et aboutissent à l'exploitation économique et sexuelle de franges entières de la prostitution. Parmi cette dernière, la classe politique des femmes est particulièrement celle en situation de précarité ou racisée. Elles sont celles qui sont désignées comme prostituables, comme une classe à part, devant satisfaire la demande masculine pour l'exploitation de leur corps. Le concept de last girl ou antiaya a été développé par la journaliste, professeure et présidente cofondatrice de l'ONG indienne Apne Hap. C'est un concept ancré dans les luttes anticolonialistes et postcoloniales qui s'inspire notamment des principes gandhiens et d'Ambedkar, de la libération et l'émancipation de la dernière personne. Voilà. Donc quand je pense que effectivement des personnes qui se croient féministes et anticolonialistes ou anti-fascistes ou anti-je sais pas quoi prônent le travail de la prostitution alors que effectivement c'est un système complètement colonial, complètement raciste, complètement fascisant, enfin complètement tout en fait, où vous avez effectivement l'intersection intersectionnelle de toutes les dominations, de toutes les oppressions. Alors, je vais poursuivre sur on a parlé de la prostitution, donc l'esclavage sexuel des femmes. Il y a aussi l'esclavage procréatif des femmes, donc qu'on appelle la GPA, faussement la GPA, gestation pour autrui. Donc, c'est vraiment pas un bon terme en réalité. Ça aussi, le langage, parce que il s'agit pas de, en fait, que de gestation, parce que il y a l'accouchement et c'est pas pour autrui, c'est pas altruiste, quoi. Donc, en fait, il s'agit plutôt de ventre à louer. Voilà, ça serait ça le bon terme, en fait, qu'il faudrait utiliser. Donc, les ventres des mères porteuses qui sont alloués pour les franges les plus riches, voilà, qui peuvent acheter des enfants. Et donc, j'ai consacré aussi récemment un podcast à la lutte contre la GPA avec Marie-Joseph de Videler, qui est coprésidente de la SIAMS, et puis le livre Ventre à louer. Donc, je continue à parler de ça, évidemment, parce que c'est très important et il y a des actions à mener pour éviter que cette pratique devienne réglementée, devienne la norme dans le monde entier, puisque c'est un peu comme la prostitution, c'est un système international qui aussi recrute effectivement, comme pour la prostitution, les femmes les plus vulnérables et les plus pauvres de la planète. Donc je vais du coup vous lire juste le descriptif d'une association, le CORP, qui fait partie aussi des collectifs qui luttent contre la GPA. Et c'est un collectif indépendant qui n'est rattaché à aucun parti politique. Il y a quelques noms parmi les membres fondateurs. Je ne vais pas tous vous les dire, mais Marie-Joseph Bonnet, par exemple, ou Sylvia Nagasinski, Anna Luana Dera, Marie Jouffré, Marie-Laure Masseille, etc. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que le... Enfin, que dit le CORP ? Donc, je vais vous lire juste leur plaidoyer. Nous refusons la pratique dite des mères porteuses, c'est-à-dire la mise à disposition des organes et de la vie d'une femme pendant 9 mois pour servir de réceptacle à l'enfant en étant destituée de son statut de mère. L'enfant est transféré par contrat à celle, celui ou ceux qui ont commandé l'enfant, et la mère véritable est dégradée. Elle n'est plus que prestataire de service, que mère de substitution, surrogate mother en anglais. Indissociable de la personne et de sa chair, la grossesse et l'accouchement sont pourtant des événements biologiques et biographiques, personnels, fondamentaux. Les enfants nés dans ces conditions ont une origine morcelée parce qu'ils sont arrachés dès la naissance à celle qui les ayant portés, nourris, a noué avec eux leur première relation humaine. C'est pourquoi nous affirmons le principe qui fonde la maternité sur l'accouchement. La maternité, grossesse et accouchement, n'est ni un service ni un travail disponible pour qui verse en échange de l'argent, rémunération ou indemnisation. Par ailleurs, nous estimons que les lois constituent le socle sur lequel s'institue l'humanité. Elles seules peuvent garantir le respect de la justice, de la paix, de la liberté, de l'égalité, de la dignité des êtres humains. Or, ces valeurs fondamentales sont remises en cause aujourd'hui à la fois par le néolibéralisme sans frontières et par le développement de biotechnologies qui risquent de réduire le corps de la personne au statut de ressources, de matériaux biologiques ou de produits. Les femmes sont particulièrement exposées compte tenu de leur rôle dans la procréation. En effet, la pression est forte pour que leur corps devienne disponible et utilisable pour répondre à la demande d'enfants, de personnes ou de couples stériles. Une idéologie hyper-libérale et individualiste les pousse à accepter de prêter leur utérus pour produire des enfants. On met hypocritement en avant le consentement des femmes à leur propre instrumentalisation, alors qu'il s'agit la plupart du temps de l'exploitation des femmes pauvres, ou alors de l'emprise d'une idéologie moderne du don qui pousse une femme à donner à une autre ou à un couple ce qui ne peut pas l'être, le lien vital qui la relie à l'enfant qu'elle porte, lien qui appartient aussi à l'enfant. Nous souhaitons rappeler la différence fondamentale entre les personnes et les choses qui irriguent l'ensemble du droit français. L'enfantement et l'enfant lui-même ne peuvent entrer dans un système de production et d'échange sans porter atteinte aux droits des personnes. En outre, nous voulons dénoncer l'instauration de nouvelles règles de langage par lesquelles tout commence et qui visent à masquer la réalité de pratiques sociales violentes et incompatibles avec les acquis de notre droit. Nous nous attacherons à déceler les procédés rhétoriques utilisés à des fins de propagande idéologique. Par exemple, la formule « gestation pour autrui », dont je vous parlais tout à l'heure, effectivement, occulte les preuves de l'accouchement avec ses risques. Le mot « gestation » laisse croire qu'une grossesse est une simple opération organique fonctionnelle, tandis que « pour autrui » suggère une action altruiste et masque le caractère commercial ou contrat. C'est déguiser une pratique sociale violente sous des discours sentimentaux et lénifiants. Enfin, nous contestons l'effacement et la distinction entre la maternité et la paternité. Nous voulons éveiller les consciences sur ces questions fondamentales qui concernent notre avenir à toutes et à tous. Voilà, donc le CORP, cette association, a aussi lancé un communiqué de presse envers les médias français qui, à longueur de temps, produisent des émissions pour faire la promotion de la GPA, voilà, sans faire parler les femmes qui ont vécu ça, hein, on les entend pas, ou sans faire parler toutes les femmes qui luttent contre, évidemment. Voilà, bah, quand on sait que Marc-Olivier Fogiel voilà, détient les médias, enfin voilà, et qu'il a écrit son livre, etc. Donc voilà. Rappelez aussi donc le livre Ventre à louer, donc de la SIAMS. Je remettrai la référence, qui est un livre formidable où vous avez tout sur la lutte contre la GPA et toutes les analyses dans le monde entier par des féministes, etc. Et notamment, il y a un chapitre dans ce livre qui est écrit par Berta O'Garcia, qui s'appelle « Casting d'esclaves ». Je vais vous lire juste un tout petit extrait, où voilà, en fait, vous allez comprendre, en fait, le Diario de la Marina, un journal de la Havane, publiait le 3 février 1846 l'annonce suivante. « À vendre, une femme noire congolaise de 20 de 20 ans avec un bébé de 11 mois en bonne santé. Cette jeune esclave, mère d'un enfant en bonne santé, remplirait aujourd'hui les conditions requises pour entrer en GPA. La prétendue maternité de substitution est une héritière directe de l'esclavage par divers aspects, les critères de sélection notamment, et en guise de chaîne, un régime alimentaire imposé, l'interdiction de relations sexuelles, la réclusion dans la phase finale de la grossesse, l'interdiction de voyager sans autorisation, ou encore le transfert dans d'autres pays pour accoucher. Voilà. Alors, je vais passer à mauvaise nouvelle qui me touche particulièrement. Il s'agit de la censure, de l'ostracisation d'une héroïne féministe que je connais, qui s'appelle Betty Lashgar, qui a été censurée à la Maison des Femmes de Montreuil, qui organisait avec les filmeuses vendredi 10 juin dernier un festival de courts-métrages féministes. Cette maison des femmes de Montreuil a honteusement censuré un film dont le personnage principal est une femme migrante, racisée comme on dit, il s'agit de Betty Lashgar, de culture musulmane et en situation de handicap. Pourquoi ? Eh bien parce que Aggressively Trans, qui est un homme qui s'identifie femme, donc un homme transidentifié femme, exige et obtient le retrait du film Betty au nom de la liberté, mettant en lumière l'activisme d'Ibtissam Betty Lashgar, qui est une féministe universaliste marocaine, militante pour les droits humains, les libertés fondamentales et porte-parole du mouvement LGBT au Maroc. Des engagements qui lui ont valu menace de mort et de poursuites judiciaires au Maroc. C'est un paradoxe, on censure donc une militante migrante, racisée, de culture musulmane et en situation de handicap. Et en plus, elle rappelle donc qu'elle est la première à porter le drapeau trans au Maroc. Donc Betty Lashgar, qui est très affectée par cette censure, qui envisage de porter plainte pour diffamation, et c'est ce qu'il faut qu'elle fasse effectivement. Donc à la suite de Stories Publiques, donc d'Aggressively Trans, qui a été invitée comme jury du festival à la Maison des Femmes de Montreuil, eh bien cette Maison des Femmes de Montreuil a décidé de déprogrammer ce film en invoquant la transphobie qui d'après elle serait, d'après cette Maison des Femmes, notoire et assumée de Betty Lashgar, malgré, je viens de vous le dire, son engagement en faveur de la communauté transgenre dans la région Afrique-Moyen-Orient. Et faut savoir que Betty Lashgar accompagne les personnes trans lors de leur demande d'asile, les personnes trans marocaines. Voilà, absurdité de cette décision, malhonnêteté de cette décision. Il faut savoir donc que Betty Lashgar est victime de harcèlement, est menacée de mort et de viol par rapport à toutes ses actions au Maroc et notamment par des islamistes. Elle est actuellement en sursis pour ses actions. Elle risque la prison ferme à l'issue de son procès au Maroc en juillet prochain. Et c'est pourtant en France, ville de Montreuil, qu'elle est pour la première fois exclue d'un événement où pourtant un film à son honneur était programmé. En excluant d'un événement féministe, une militante féministe marocaine précaire et handicapée, la Maison des Femmes de Montreuil et les filmeuses font preuve de misogynie et de racisme. C'est la honte. Ici, une héroïne féministe est silenciée sans raison par l'intimidation et le chantage haineux d'un homme transidentifié qui se croit tout permis. Qui est la scandaleuse Betty Lashgar ? C'est une psychologue clinicienne et militante féministe marocaine. Elle a fondé le Mali, mouvement alternatif pour les libertés individuelles. Ce mouvement défend les droits des femmes, la liberté de conscience, les droits sexuels reproductifs et l'instauration d'un État laïque au Maroc. Mali mène des actions de désobéissance civile de grande ampleur, pique-nique symbolique en plein Ramadan au Maroc contre une loi liberticide qui criminalise le fait de manger en public. Kissina Rabah, qui a fait scandale dans le pays pour soutenir des ados en prison pour un simple baiser. Le mouvement a initié la lutte LGBT au Maroc et instauré le 17 mai journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, aidant notamment des personnes trans à obtenir le droit d'asile en Europe. Betty Lashgar est une défenseuse de la communauté LGBT, du droit à l'avortement et à la sexualité hors mariage. Elle milite aussi en France contre le système de la porno-prostitution, la marchandisation du corps des femmes auprès du collectif Abolition Porno-Prostitution. C'est une féministe universaliste qui pense que les droits fondamentaux humains sont les mêmes partout, y compris au Maroc. Voilà, donc je remercie Lord aussi de Charlie Hebdo d'avoir soutenu Betty. Du coup, je vais compléter par rapport à ce que j'ai lu de son article, qui me semble intéressant. Donc, elle écrit « Ça aurait pu être un beau festival de courts-métrages réalisé par des femmes qui s'est déroulé le vendredi 10 juin, mais c'est devenu le lieu d'une absurde exclusion. Quelques mots sur le lieu, tout d'abord éminemment symbolique, dans lequel il se déroule. Il s'agit de la Maison des Femmes de Montreuil, créée dans les années 2000 par Thérèse Claire, militante féministe de la première heure, ancienne du MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, fondatrice des Baba Yagas, centre autogéré pour femmes âgées. Pour le festival, le mot d'ordre des projets proposés à la sélection était une phrase de Thérèse Claire. « Nous, les femmes, nous sommes les semeuses du futur. » 48 films ont été proposés, 16 films sélectionnés par un jury. Voilà. Et donc, le film de Betty donc, a été, voilà, je ne vais pas revenir dessus, donc censuré. Alors, Lord aussi a réussi à s'entretenir avec une membre de ce jury qui lui a expliqué avec force ce jargon militant que ce film était oppressif pour une communauté. Le film en lui-même, donc, elle a pu le visionner et il n'évoque pourtant pas du tout la question trans puisqu'il ne parle que du parcours de Betty Lashgar que je vous ai décrit juste avant, donc qui est assez héroïque par rapport aux droits des femmes et des LGBT. Donc, du coup, voilà, la journaliste Lord aussi l'a fait remarquer à la membre de jury qui lui précise « Oui, mais le film rend visible une individualité oppressive. » Le film donc est censuré non pas pour des propos tenus, mais pour la personnalité qu'il présente. Le jury se serait employé à faire une investigation, c'est-à-dire regarder les réseaux sociaux de Betty Lashgar pour aboutir à la conclusion qu'elle aurait tenu des propos transphobes. Lors de cet entretien donc de Lord aussi avec cette membre du jury, eh bien cette membre du jury s'avère incapable de préciser quels seraient ses propos si condamnables et elle ajoute « ce sont des propos transphobes et nous n'avons pas à les définir, point ». La victime collatérale de cette censure, c'est aussi la réalisatrice du court-métrage qui tient à rester anonyme et qui est dépassée par cette polémique. Du côté du jury, on nous explique toujours dans un jargon militant qui devient risible et totalement langue de bois, notre choix a été exprimé à la réalisatrice. Elle a accueilli totalement notre posture, elle n'avait pas perçu que son film était oppressif. On se situe chacun à un endroit différent de la déconstruction, on a tout notre rythme, après notre discussion elle était à un autre endroit. Donc endroit de la déconstruction si vous suivez. Hein. Donc selon nos infos, la réalisatrice n'a rien accueilli du tout. Finalement, en cherchant quel est le principal reproche fait à Betty Lashgar, eh bien, ce serait d'avoir co-signé une tribune publiée dans Marianne intitulée « Trans, suffit-il de s'autoproclamer femme pour pouvoir exiger d'être considérée comme telle ?» C'est une tribune qui a été lancée par une militante féministe, Pauline Arrighi, qui a été signée par 140 militantes, dont Christine Delfiz, qui est chercheuse et universitaire spécialiste du genre, ou encore Florence Moreno, cofondatrice des Chiennes de Garde et de Zéro Macho, et aussi du Front abolitionniste auquel j'appartiens. Et d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec, avec tout ça, avec cette tribune. Et voilà, ce texte avait, l'objectif du texte, c'était de souligner que les personnes trans ne devaient pas être incluses dans les espaces réservés aux femmes, ni être au centre de l'agenda féministe. Dans une société encore patriarcale, les mots « femmes » et « hommes » doivent garder leur signification. C'est un extrait de la tribune. « Nous avons besoin de pouvoir mesurer les inégalités entre les sexes pour les dénoncer et surtout les corriger. Il nous faut pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques et des mesures correctives qui s'adressent spécifiquement aux femmes. » Voilà, tribune qui peut être critiquable en soi. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, aversé au débat, mais qui ne justifie en rien l'excommunication de ses signataires, dit Lord aussi. Et surtout avec cette malhonnêteté. Voilà. Donc la Maison des Femmes s'est en plus targuée donc, de mettre au pilori Betty Lashgar avec un communiqué vraiment honteux en écrivant « Le racisme tue, la transphobie tue », alors qu'il n'y a pas plus antiraciste que Betty Lashgar qui en plus est racisée. Donc ils n'ont rien rappelé de son combat, etc. Voilà, c'est vraiment une honte complète. Donc je vous ai dit, voilà, la fondation des femmes, eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Donc on subit la silenciation, l'ostracisation quand on est des femmes féministes, surtout si on est des femmes abolitionnistes de la porno-prostitution, hein, puisque le transactivisme est pro-prostitution. Donc voilà. Donc je vais vous lire aussi une publication donc, que j'ai trouvée. Qui peut-être peut faire rire si, ou pleurer, voilà, mais qui du coup explique un peu ce qui se passe, l'intrusion donc, du transactivisme un peu partout, et notamment au planning familial, avec un lexique nouveau, quoi, un lexique trans au planning familial qui donc a adopté, voilà. Vous vous définissez comme un homme gay, une femme bisexuelle ou bien lesbienne, ben, vous avez tout faux, et vous êtes limite transphobe, attention. Enfin, selon le nouveau lexique du planning familial, en tout cas, qui dit « un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle ». Voilà ce que l'on peut lire dans un lexique trans qui est proposé par le planning familial, pour qui les cours de biologie semblent bien loin. Et voilà, dans ce lexique, on ne peut plus dire « homme » ou « femme ». Dans ce lexique, on dépasse même les termes de « personne à vulve », qui est prôné par certains transactivismes, pour un horrible acronyme « AMAB »,« Assigned Male at Birth », soit « personne assignée homme à la naissance », ou « AFAB », pour « personne assignée femme à la naissance ». Voilà, donc c'est un lexique, waouh. Bon, certaines associations départementales, heureusement, ne l'utilisent pas. Il y a des personnes à l'intérieur du planning familial qui se battent pour maintenir la charte comme elle était avant, pour maintenir aussi notamment la laïcité dans le planning familial, qui ça c'est aussi, c'est planning familial à virer complètement contre la laïcité, pro-voilement, etc. Alors je vais du coup pour rire un peu ou pour pas pleurer, je vais vous lire aussi cet article de Christine Ledoiré qui a réagi par rapport au lexique trans du planning en disant le lexique trans du planning est une abjection totalitaire. Donc je vais vous lire quelques extraits, je trouve très très bien écrit. Elle répond, donc voilà, je vous lis. Pourtant, donc c'est Christine Ledoiré. Pourtant, j'en ai vu pas mal. Je suis féministe et lesbienne et non pas une réactionnaire de la pire espèce. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que Christine Ledoiré est une très grande féministe et lesbienne qui a lutté pour toutes les causes féministes et pour la cause LGBT, qui a été présidente de grandes associations LGBT. Voilà. Donc, pourtant, j'en ai vu pas mal. Je suis féministe et lesbienne et non pas une réactionnaire de la pire espèce. La dérive du planning familial vers toujours plus de relativisme culturel, avec l'acceptation de l'oppression patriarcale religieuse de l'islam, voile, et puis la défense du système prostitutionnel, et toujours plus d'adhésion au queer, woke, et cancel culture s'arrêtera-t-elle un jour? Cette association devrait-elle toujours recevoir des subventions publiques? Quand on lit ce lexique qui atteint des sommets de malhonnêteté, on se dit non. En préambule, le planning familial croit bon de préciser que rien, pas même ce lexique, ne peut faire consensus de par l'autodétermination des individus, la fluidité, l'évolution du langage. Le lexique est très fourni, il y a des traductions de termes anglophones. J'ai relevé 7 termes et définitions qui, selon moi, posent de très gros problèmes et sont révélateurs d'une idéologie queer très woke et qui s'impose par le langage. Je garde pour la fin la section inclusion dans les termes LGBTQI+, qui m'a mis hors de moi. Alors, lexique. LGBTQIA+, lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, asexué ou aromantique. Le plus indiquant la non-exhaustivité incluant toute identité de genre ou orientation marginalisée, d'après le planning familial. Voilà ce qu'en pense Christine Ledoiré. Les questions trans et d'identité sexuelle relèveraient-elles des questions sur l'homosexualité plus que sur l'hétérosexualité ? L'orientation sexuelle n'a strictement rien à voir avec l'identité de genre ou sexuelle. Que peut bien signifier aujourd'hui l'acronyme à rallonge LGBTQIA+ ? Au départ, il y avait un mouvement de libération homosexuelle et on parlait d'homosexualité, de gay, de lesbienne avant tout. Mais désormais, c'est interdit, c'est trop binaire, il faut être fluide. Homosexuel, c'est réac. Personne ne sait trop bien à quoi correspondent les dernières lettres de ce sigle fourre-tout. C'est pas grave, ils apprendront, et de force s'il le faut. Alors, dans le lexique, ils disent « genre, classe sociale construite culturellement en Occident, cela admet deux catégories dont une domine les femmes, une dominante les hommes. Genre est également utilisé en raccourci pour désigner l'identité de genre. » Réponse de Christine Ledoiré. Oui, le genre est une classe sociale construite culturellement, pourquoi pas, mais on peut tout aussi bien substituer au mot genre le mot sexe. Le sexe est une réalité biologique, chromosomes, hormones, appareils génitaux, caractères secondaires, etc. Et c'est également, et fonction de cette réalité biologique, une classe sociale construite culturellement, deux catégories sociales de sexe, une dominée de sexe féminin, une dominante de sexe masculin. Le mot genre n'est qu'une convention pour exprimer qu'à un moment on ne parle pas tant de biologie que de rôles sociaux de sexe genre, mais le mot sexe peut tout aussi bien être utilisé. Alors, autre mot dans le lexique du planning familial, ils parlent de assignation à la naissance. Ils disent à la naissance, les médecins décident selon des normes de longueur du pénis clitoris si l'individu est un garçon ou une fille. Waouh ! Réponse de Christine Ledouard est non. Les médecins à la naissance savent s'ils ont affaire à un garçon ou une fille parce que les organes génitaux sont très différents. Il y a bien un appareil génital féminin ou masculin. La longueur du pénis ou du clitoris leur importe peu. On n'est pas dans un casting de film pornographique. En revanche, la détermination du sexe pose problème dans le cas de personnes intersexuées qui naissent avec des variations de leurs caractéristiques sexuelles. Ce qui représente environ 1,7% des naissances. Les droits des personnes intersexuées doivent être respectés, mais aucune raison d'imposer leurs problématiques à l'ensemble de la population. Le terme « assignation à la naissance » est accusateur, comme s'il y avait une intention coupable derrière un simple constat. Bientôt, on nous dira que les médecins doivent cesser de nous assigner un sexe contre notre gré et qu'à l'âge de 5 ans, nous choisirons ce que nous voulons être, elfe, champignon ou sirène, figurant bien entendu au catalogue. Alors, autre vocabulaire que moi aussi je déteste, je ne supporte pas, dès que je le vois, je comprends tout de suite que voilà, c'est pas ça du tout. Personne cis. Personne, donc d'après le planning familial, cis, c'est une personne ne se ressentant pas d'un autre genre que celui qu'on lui a assigné à la naissance. On admet que l'adjectif cis est le diminutif de cisgenre. Voilà, alors la réponse de Christine Doiré, c'est « alors là, c'est carrément dément ». Ce terme sous-entend que chacun devrait vérifier être bien conforme ou pas au sexe constaté à la naissance. En réalité, ce terme est très pratique pour déconsidérer les personnes qui ne revendiquent pas une fluidité de genre, voire une transidentité. C'est devenu une insulte. « T'es cis, t'es banal, tais-toi. Nous allons t'expliquer ce que c'est que d'être une femme. Nous les trans, mâles ou femelles. On le sait tellement mieux que toi puisque nous l'avons voulu si fort. » Comment de telles absurdités se sont-elles imposées comme des vérités ? Donc avec la personne cis, il y a aussi la cis-normativité. D'après le planning familial, ça serait considérer le fait d'être cis comme normal, allant de soi, comme la référence par défaut, marginalisé, tout ce qui en sort. Voilà, alors, vocabulaire très, très, très important auquel il faut répondre. C'est TERF, voilà, carrément, donc TERF dans le planning familial. Qu'est-ce que c'est, d'après eux, le TERF ? Voilà, c'est, d'après eux, Trans Exclusionary Radical Feminist, ça désignerait une fraction de féministes et d'individus qui lutteraient contre les droits des personnes trans au nom de la sécurité des femmes cis, ah bon, dans les espaces non mixtes, toilettes, prisons, utilisés à tort pour désigner les personnes transphobes en général. Voilà, alors, la réponse de Christine Doiré, auquel j'adhère complètement. Cette expression odieuse, TERF, a été inventée et vulgarisée pour attaquer les féministes radicales. En réalité, toute féministe opposée à ce que l'agenda trans supplante celui des luttes pour les droits des femmes. En réalité, ce sont les féministes, donc on le voit bien avec le cas de Ibtissam Bethilajgar, donc juste avant, hein. En réalité, ce sont les féministes qui sont attaquées, soit physiquement, pour empêcher des prises de parole, des conférences, soit moralement, pour les harceler et nuire à leur réputation, comme dans le cas de J.K. Rowling, et donc j'ajouterais comme dans le cas de Ibtissam Bethilajgar, ou comme dans le cas de Marguerite Stern, hein, voilà, qui a inventé les collages contre les féminicides et qui aujourd'hui n'est même pas citée dans, par exemple, le dernier film qui est passé à Cannes pour parler des collages, même pas, ils ont cité la créatrice de ces collages, qui est Marguerite Stern. Il est devenu interdit de poser une question, d'émettre un doute ou de formuler une critique sous peine d'être attaqué et interdit d'exister, de communiquer et de travailler. Oui, la question de la sécurité des femmes dans les différents espaces publics est un problème réel, d'importance. Oui, il est légitime de les protéger d'individus autodéterminés femmes, mais possédant un pénis et exerçant des menaces et violences à caractère sexuel. Donc très très bonne réponse auquel je suis complètement d'accord de Christine Ledouaré par rapport à ce TERF. Alors, de le lexique du planning familial, continuons pour en rire si on ne veut pas en pleurer. Donc mâle-femelle, d'après le planning familial, c'est utilisé pour étudier la reproduction sexuée chez les espèces et il ne faut surtout pas les employer pour caractériser nos congénères humains. Ce sont d'après eux des termes binaires qui ne reflètent pas la variété de nos corps et de nos vécus. Comme on l'a vu plus haut, le sexe est un construit social. Waouh. Et un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle. Ah ouais, quand même. Ok. Donc, réponse de Christine Ledoiré. Le sexe est un construit social ? Non, le sexe correspond à des normes sociales en vigueur, mais qui peuvent être combattues et battues en brèche. Le sexe est une réalité biologique. Ensuite, nos cultures construisent des règles et stéréotypes qu'il est tout à fait possible de déconstruire et dépasser, si on est féministe. Être de sexe féminin, une femme, ne signifie pas être une bimbo botoxée aux lèvres et ongles carmin, chaussée sur des échasses de 15 cm de haut et soumise à un mâle viril. Tout comme être de sexe masculin, un homme ne signifie pas être une brute épaisse, prête à dégainer son pénis à tout va. Alors, le planning familial, un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle. Alors ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce donc un pénis, sinon l'organe sexuel masculin ? Ça ne pousse pas dans les champs, si ? Personne ne songe à s'en greffer un en pâte à modeler, si ? Et pourquoi des hommes trans, femmes, tout mâles, voudraient s'en faire fabriquer un vague ersatz, sinon ? Cette mauvaise foi est tellement ridicule. Pour finir, la section inclusion donc du planning familial dans les termes LGBTQI+, est tout bonnement insensée. Donc voilà ce qu'ils disent des mots de lesbiennes et gays. Alors voilà, ils disent, donc d'après le planning familial, hein, lesbiennes et gays sont bien connus mais souvent cis-centrés. Il est important de comprendre qu'un couple de lesbiennes peut par exemple être composé d'une femme cis et d'une femme trans, ou qu'un homme gay peut avoir une vulve. Alors, en fait, voilà ce que dit Christine Ledoiré. L'homosexualité n'est plus clandestine. Elle est mieux acceptée, mais il ne faut pas rêver. Tout est loin d'être parfaitement réglé. Alors voyez-vous, maintenant, les personnes homosexuelles sont des oppresseurs comme les autres ? Un homme gay peut avoir une vulve ? Mais oui, bien sûr, et une femme lesbienne un pénis, n'est-ce pas ? Et on retombe sur le terrorisme trans très en vogue qui reproche aux lesbiennes de ne pas vouloir coucher avec des trans mâles tout femelles. Vous imaginez un homme devenu femme trans non opéré qui continue de préférer les femmes, donc qui devient femme trans lesbienne et qui veut s'imposer et contraindre une lesbienne à coucher avec elle. Mais pourquoi cette dernière en aurait-elle envie, plus qu'avec un homme cis ? En fait, c'est infernal cette dictature des minorités et il est plus question d'aimer des individus pour ce qu'ils sont, mais il n'est plus question d'aimer des individus pardon, pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils prétendent être. Voilà, après ça termine sur le même délire donc du planning familial. Les personnes bi seraient, d'après le planning familial, attirées par les hommes et les femmes, mais d'après eux, cette définition est binaire, elle a pu être qualifiée de transphobe. Bon, j'arrive même pas à comprendre en fait ce que ça veut dire. Voilà, donc pour conclure, Christine Ledoiré dit « Quand on pense que le rôle du planning familial, c'était notamment d'aider les jeunes, et pas seulement, à se protéger pour avoir une vie sexuelle libre et épanouie, quel vertige !» Je vais leur offrir mon essai Fracture, le féminisme et le mouvement LGBT en danger. Donc ça, c'est le livre qu'elle a écrit, effectivement. D'ailleurs, j'en avais parlé aussi dans un des podcasts. Récemment paru aux éditions Double Ponctuation, qui traite notamment de ces questions. On ne sait jamais, des fois que ça leur ouvrait des nouveaux horizons. On peut toujours rêver. Ya no más.
rabia. Transformo la furia, mi rabia es mi fuerza, mi rabia es mi fuerza. Puedo curar, curandera me dice, recojo tu hueso. Curandera me dice, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc c'était La Chica, La Loba, c'est La Louve, et cette chanson est dédiée à toutes les femmes, et elle a dit « Vinceremos », et c'est moi qui ai dit oui au début. Vous entendez au début de l'enregistrement. Voilà, donc le dernier podcast de la semaine dernière s'intitulait « Toutes les religions sont misogynes » et justement j'avais profité de l'expertise de Betty Ibtissam Lashkar qui se bat contre tous les patriarcats religieux, qui dénonce tous les patriarcats religieux de quelque religion qu'ils soient, hein, que ce soit religion chrétienne, voilà, comme aux États-Unis, où l'IVG est pratiquement interdit, ou en Amérique du Sud, ou en pays, voilà, Pologne, etc., ou que ce soit de s'affronter, de se confronter au patriarcat islamiste. L'islam étant religion d'État au Maroc, et elle dénonce toutes les codes liberticides qui découlent de ce patriarcat islamiste pour les femmes. Donc toutes les voilà. Donc si vous voulez, voilà, vous pouvez réécouter ce podcast. Je vous encourage à l'écouter. Donc moi, je suis pour un féminisme qui ose se confronter aux religions qui sont principales responsables, bien responsables, principales responsables, je dirais, de l'endoctrinement sexiste. Voilà. Et je dirais, c'est une arme sacrée du patriarcat. C'est une très forte arme, évidemment. Et du coup, j'ai trouvé ce texte de Michel Vianès qui parle de ça, qui parle de comment les religions, depuis les origines de l'humanité, ont mis en place la hiérarchie homme-femme et en font l'ordre d'une nature voulue et créée par leur Dieu. Donc en fait, c'est le premier chapitre qui s'appelle « Les religions des origines », qui fait partie d'un livre, son essai, qui s'appelle « Un voile sur la République », Stock 2004. Les hommes ont cherché à expliquer la création du monde, à proposer des réponses à la question fondamentale : pourquoi les femmes ont-elles le pouvoir exorbitant de donner naissance aussi bien à des filles qu'à des garçons ? Pourquoi les hommes doivent nécessairement passer par une femme pour se reproduire à l'identique ? Pour que la race des hommes se perpétue, les hommes doivent avoir à leur disposition une femme qui leur donnera des fils. Le désir d'immortalité les conduira à rendre un culte à leurs aïeux, de père en fils, donc de contrôler que leurs fils soient bien les leurs. Des philosophes grecs ont théorisé l'infériorité des femmes. Le droit romain a légalisé la subordination des femmes. Toutes les explications avancées montraient la nécessité de s'approprier des femmes et de pouvoir les maintenir à disposition de leurs fonctions de reproduction. La femme n'est qu'un réceptacle. Pour Aristote, un rapport est réussi si la semence impose le masculin. Donc la naissance d'une fille signe l'échec de l'homme. Voilà comment la valorisation de l'homme s'est imposée. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, on observe les infanticides concernant les petites filles. La place des femmes dans les discours philosophiques grecs. Classer la différence sexuelle en rapport avec d'autres types de différences pour mieux relever les incapacités des femmes. En Grèce, à Rome, les femmes sont des mineures sous la tutelle d'un maître. Donc incapacité pour les femmes de transmettre la légitimité. L'ordre successoral est premier par rapport à toutes les incapacités féminines. On retrouve, entre parenthèses, ce statut de mineur juridique des femmes se retrouve dans de nombreux pays, notamment pays musulmans, et avec aussi le nom d'héritage, etc. L'exclusion de la fonction et la non-autorité parentale. L'exclusion de la fonction de délibérer au nom d'autrui et pour les autres, donc l'exclusion de la représentation de l'universel, a exclu les femmes du pouvoir politique. Le code Napoléon n'a rien inventé. À Rome, l'incapacité des femmes à sacrifier, le refus de la visibilité des femmes aux côtés des dieux, l'interdiction des lieux sacrés sous prétexte d'impureté a entraîné la diabolisation et les tabous qui ont justifié l'exclusion des femmes du pouvoir religieux. Mais cette infériorité ne se constate pas seulement dans le monde méditerranéen. Tradition et religion ont expliqué les incapacités des femmes en faisant appel à la nature. Elles ont interprété des faits biologiques, le premier d'entre eux étant le sang menstruel. Là va s'ouvrir le registre du pur et de l'impur, permettant de jouer sur toute la gamme du licite et de l'illicite, du permis et de l'interdit. Pour le bouddhisme, menstrue et sang de l'accouchement condamnaient les femmes à tomber dans un enfer spécifique, l'étang de sang dont elles ne pouvaient échapper qu'après certains rites exécutés par des prêtres moyennant finance. Les femmes vont être dans le même temps intellectuellement stérilisées par une masse d'obligations ridicules et tatillonnes, interdits alimentaires, hindouisme le pire, tâches domestiques ritualisées, etc. Obsessions religieuses à chaque instant. Femme impure, femme domestique, femme tentatrice, il va falloir cacher la femme. La matérialisation d'espaces séparés est également une constante. Espace privé dévolu aux femmes, espace public aux hommes, mais également séparation, sexe et section appartiennent à la même famille de mots. Dans les espaces communs, meïssa, rideau dans le grand temple de Jérusalem. Hijab, séparation entre les femmes de Mahomet et les solliciteurs venus demander conseil au prophète, et aujourd'hui, sur elle-même dans l'espace public, le voile, afin que même dehors, elle soit dedans et séparée. Séparer, rendre invisibles les femmes, mais les louer en tant que mère ou épouse vertueuse, et surtout en faire des servantes obéissantes. Toutes les religions considèrent que les hommes subviennent aux besoins matériels de ces pauvres femmes en échange de services domestiques, sexuels et maternels. Donc du coup, puisqu'on a parlé du hijab, et je vais enchaîner sur ce texte de Kamel Daoud, très bon texte qui s'appelle « Un islamisme topless » et qui dit en gros, mais je vais vous le lire parce qu'il est vraiment super bien écrit, qui dit que défendre le burkini aujourd'hui en France, c'est risquer... Non, c'est pas ça qui est le plus... Non, bon, je vais vous lire, c'est tout simplement mieux de vous le lire. Voilà. Le burkinisme est une religion en soi. Son but n'est pas de croire en un dieu différent, mais de faire perdre espoir en l'homme différent. Son rite est unique, couvrir, voiler, effacer. Les piscines et les plages forment son temple. Il s'offre à voir comme un monothéisme aquatique, qui veut couvrir la femme dès qu'elle s'approche de l'eau. Sa volonté est de la culpabiliser, et surtout de la dérober à son propre regard à elle. Le comble, la femme en arrive même à trahir son propre corps et à revendiquer cette trahison comme un accomplissement. Ce burkinisme, à mi-chemin entre la provocation médiatique et l'immolation vestimentaire, est une religion faite de ruses, où la victime en arrive à imaginer comme un droit le fait d'être sacrifiée. Mais au-delà, c'est un jeu de provocation bien calculé, qui se répète chaque été. On espère, en burkinisant la femme, dévoiler l'Occident pour ce qu'on veut faire croire qu'il est. Une géographie qui hait les musulmans, qui veut porter atteinte à l'honneur des Arabes, tant l'islam est voulu exclusivement religion arabe. Et on annexe l'incident à la mémoire coloniale, du temps où le vainqueur en armes dénudait les femmes des vaincus à genoux. Dans ce jeu de rôle, l'Occident devra y apparaître blanc, agresseur, attentatoire à la vertu. On espère faire oublier le voile sous le viol rejoué. Le raisonnement fallacieux est habile. La femme est victime, et victime cette fois par manipulation des preuves, non de ceux qui la couvrent pour l'enterrer, mais de ceux qui la découvrent pour l'exhiber, dit-on. Dans l'affaire de Grenoble, une association musulmane rapporte qu'elle se battra autant pour le topless que pour le maillot couvrant. À la lecture de cette déclaration, l'auteur a hésité. S'esclaffer, face au sort d'idiot réservé aux Français qui ne connaît pas le grand œuvre de ceux qui veulent couvrir la femme et éclairer le monde avec la vérité dont ils sont détenteurs, ou sourire devant tant de vices et de ruses. Non négociable. Une bataille islamiste pour les seins nus ? Où ? En France ? Mais a-t-on jamais vu des armées de voilés, convaincues d'être libres, manifester au nom de cette liberté et pour la liberté des femmes dans le monde arabe de porter une jupe courte ou un bikini ? Sait-on ce qu'il en coûte à une Algérienne arabe qui refuse de porter le voile ? Et que sait-on des menaces que subissent celles qui osent se dévoiler ? Entre la France et le monde arabe, on proposerait alors ceci. Que ceux qui se battent pour le burkini en Occident soient invités à se battre pour le topless ou le deux pièces dans le monde musulman. Grâce à eux, nous pourrons ainsi espérer en l'humanité et croire en leurs vertus bien théoriques. L'utopie ne sera pas alors seulement grenobloise. Chose impossible ? Bien sûr. Pour se battre pour le droit de porter le burkini en piscine, il faut pouvoir profiter des lois d'un pays de droit, ce qui n'est pas le cas au sud de la Méditerranée. Là, on peut voiler les femmes de force sans perdre de temps en joute communale. La liberté ne sait pas se défendre, me répétait une amie, et les intégristes de toutes les religions le savent. Ce qu'ils demandent partout, quand ils sont en démocratie, c'est la liberté d'y mettre fin. Ils savent en exploiter la précaire essence, la définition qui n'est pas absolue, le paradoxe fondateur qui nous oblige à la réflexion et non à la croyance, la faiblesse qui est sa force, car elle n'est pas tyrannique. Quand certains saluent comme une victoire le burkini en France, il ne s'agit pas de la victoire d'un burkini, mais de la burkinisation qui arrivera un jour. Le caractère totalitaire de cette démarche, la conviction non négociable qu'ont ses promoteurs de détenir la vérité, voilà ce qui échappe à l'Occident. Dans les pays musulmans, on a fini par avoir le burkini et la burqa à force de concéder. En Afghanistan, les femmes n'ont pas le droit de se montrer, d'avoir un visage. Trop loin de l'Europe ? Non. La burkinisation commence toujours par un pas. Par un pas en arrière, et en arrière. Et un jour, il ne restera plus du monde d'avant que de vieilles photos qu'on regarde en Algérie, en Égypte et ailleurs, avec un soupir. Des femmes se promenant seules, en jupe ou pas, libres et souriantes. Des jours morts et lumineux. Voilà, donc je précise qu'évidemment je relaye et je suis auprès de toutes ces femmes de culture musulmane qui se battent contre le voilement et pour leur liberté. Et elles sont nombreuses et j'en parle aussi souvent dans mes podcasts. Notamment il y a un mouvement qui s'appelle Let's Us Talk, de ces femmes qui sont silenciées, qu'on ne veut pas écouter et que l'on traite d'islamophobes. Ce qui est un comble parce qu'au pire on pourrait peut-être les traiter de mécréantes et c'est pas toujours le cas parce que quelquefois elles peuvent même être musulmanes et lutter pour leur liberté et contre le voilement. Et d'ailleurs, donc, du coup, toutes les personnes donc, qui critiquent les religions ou la religion, l'islam, celle-là, elle est interdite d'être critiquée, sont taxées d'islamophobes et sont assimilées à l'extrême droite. On retrouve cette stratégie aussi pour les personnes qui critiquent le transactivisme. Évidemment, l'extrême droite, malheureusement, puisque la gauche est un peu complètement barrée, l'extrême droite instrumentalise et n'étant pas du tout féministe, féministe, c'est sûr que je déteste l'extrême droite. L'extrême droite est une idéologie misogyne, réactionnaire et patriarcat traditionnel, on va dire, ou plutôt patriarcat religieux, mais que pour patriarcat chrétien, on va dire. Et du coup, l'extrême droite instrumentalise nos luttes et fait passer, nous assimile à eux lorsque l'on critique des religions, en particulier l'islam, ou lorsqu'on critique le transactivisme. Malheureusement, nos analyses sont réutilisées par l'extrême droite et ça nous assimile à eux, ce qui est lamentable puisqu'on n'a rien à voir avec eux. Et malheureusement, les femmes féministes radicales qui analysent le transactivisme depuis des dizaines d'années, qui en parlent et qui alertent, etc., elles, on ne les écoute pas, on ne les entend pas, elles sont silenciées et on écoute seulement les hommes, comme d'habitude, comme par hasard, les hommes réactionnaires d'extrême droite. Et comme ça, ça arrange tout le monde, puisqu'on pourra dire, critiquer le transactivisme, c'est être d'extrême droite, voyez. Donc, je vais vous lire cette publication d'Isabelle Alonso, qui elle aussi est une grande féministe, qui a écrit un très bon livre que je vous recommande, qui s'appelle « Les vrais hommes sont féministes ». Et donc, elle va, je vais vous lire, puisque vous comprendrez tout à fait pourquoi je vous ai parlé comme ça. Voilà ce qu'elle dit, son titre c'est « Facho versus islamiste ». Je souffre d'entomophobie, de claustrophobie, d'agoraphobie. Cela signifie que confronté à des insectes, des espaces fermés ou des foules, je ressens une anxiété que je ne contrôle pas, que je n'ai ni provoquée, ni pensée, ni conçue. Je la constate, j'essaye de m'y opposer, mais globalement je n'y peux rien. Le mot islamophobe, comme d'ailleurs le mot homophobe, ne répond pas à cette définition. Si rejet de l'islam il y a, nous sommes dans le monde du penser, de l'analyser, du construit. L'extrême droite est-elle islamophobe? Oui, me direz-vous. Or, l'extrême droite n'est pas islamophobe. Elle est raciste. C'est par racisme qu'elle rejette la religion musulmane, parce qu'elle lui apparaît liée à un groupe humain qu'elle exècre, les Arabes, et parce qu'elle sait le profit politique qu'elle peut tirer de leur rejet. L'extrême droite est catho. Elle rêve d'un retour à une France catholique qui n'aurait jamais connu la loi de 1905. Face à son équivalent intégriste musulman, elle présente une convergence d'intérêts. Chacun ses fidèles et les ouailles seront bien gardées. Chacun chez soi, chacun son camp, chacun sa prosternation. Ils se ressemblent comme se ressemblent les ennemis de la liberté. Quand tout le monde sera soit à genoux, soit face contre terre, ils auront gagné et sauront se partager le gâteau. Suis-je raciste parce que je rejette le voile, la polygamie? Non, je suis clairement non pas islamophobe, comme précisé plus haut, je rejette les mots en phobe, imprécis, donc inexact, mais je rejette la religion musulmane aussi fermement que je rejette toutes les autres. Si on veut appeler ça islamophobie, on peut toujours, mais je n'ai pas de phobie. Juste une pensée, une analyse, une opinion. Je suis cohérente. Si je rejette les religions, c'est parce que je rejette le pouvoir qu'elles exercent sur les individus partout et depuis toujours, en particulier sur les femmes. Pouvoir politique via la religion. Avec les religions, monothéistes ou pas, je rejette un corpus idéologique, autrement dit un paquet d'idées, de concepts dont je conteste la pertinence et dont j'exècre la violence. Ça s'appelle liberté d'opinion, c'est un droit humain que j'exerce avec sa corollaire, la liberté d'expression. En revanche, le racisme rejette, méprise, maltraite des êtres humains, considérés comme différents, inférieurs, devant être haïs pour ce qu'ils sont, ni pour ce qu'ils font, ni pour ce qu'ils pensent, ni pour ce qu'ils disent, juste pour ce qu'ils sont. Le racisme affirme une hiérarchie, un rejet. Le racisme n'est pas une opinion, c'est une violence et un délit. Pour planquer leur racisme illégal, les racistes ont dégoté un nouveau concept, l'islamophobie. Or celle-ci, comme par exemple l'anticléricalisme, n'a aucune raison d'être illégale, puisqu'elle ressort de la liberté d'opinion. Les islamistes qui sont à l'islam ce que l'extrême droite est à la politique ont vite compris le profit à tirer de cet amalgame et s'engouffrent dans la brèche. L'ambiguïté cultivée entre racisme et islamophobie leur permet de taxer de raciste quiconque exprime une idée de racisme quiconque exprime une idée islamophobe et de transformer l'islamophobie en cache-sexe de leur entrisme dans la société. Habile, il faut reconnaître, ça marche au feu de Dieu, si j'ose dire. Je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine.